Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 18h33. On poursuit donc cette édition spéciale avec le débat des grandes voix. Et ce soir, à mes côtés, Michel Cotta, bonsoir. Charles Villeneuve, bonsoir Charles. Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, bonsoir Louis.
Bonsoir.
Et l'entrepreneur et écrivain Philippe Manière, président de Vae Solis. Merci d'être là, Philippe, bonsoir.
Merci, bonsoir.
Alors, reconfinement généralisé, avec quelles exceptions? Écoles et collèges pourraient ou rester ouverts, notamment, on vient de le dire. Réponse maintenant dans moins d'une heure. On suivra dans moins d'une heure et demie, pardon, on suivra tout ça ensemble en direct sur Europe 1. On suivra cette allocution à 20h et on en parlera après avec nos invités. D'abord, question simple, je commence par vous Philippe Manière, est-ce que c'est un aveu d'échec pour le gouvernement tout de même, ce reconfinement, s'il est confirmé?
Honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Vous avez vu que c'est toute l'Europe qui se pose la question de l'opportunité du reconfinement, c'est toute l'Europe qui fait face à une recrudescence de la pandémie. Il y a certainement des choses qui auraient pu être faites différemment, mais je pense que c'est difficile de considérer que ce gouvernement dans ce pays a une responsabilité particulière vis-à-vis d'un phénomène qui est international et qui frappe beaucoup de nos voisins, autant que nous ou presque.
Pas de manque d'anticipation, tout de même, les promesses qui avaient été faites à la sortie du confinement n'ont pas été tenues. La France dispose de 5 800 lits de réanimation, Olivier Véran en avait promis 12 000. On ne les a toujours pas vus. En avril dernier, le gouvernement avait annoncé avoir commandé 10 000 respirateurs. Le problème, c'est que les médecins disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas satisfaisants pour soigner les Covid. Dernier point, le secrétaire général du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation dit que sur l'ensemble des lits de réanimation en France, 10% sont fermés faute de personnel et qu'il y en aurait même davantage aujourd'hui. Alors,
mais Charles, écoutez, autant la première fois, on était dans l'inconnu et dans la sidération, autant 9 mois après, on peut faire un constat clinique, c'est l'échec de la politique de santé et on peut, si vous voulez, difficilement dire le contraire, au moins sur ce plan-là. L'échec politique aussi, au sens stricto sensu, non, mais l'échec de la politique globale de santé, oui. Ça fait 20 ans en France que l'axiome politique, c'est de toute façon considérer que la politique de santé coûte trop cher. Ça fait 20 ans qu'on a augmenté encore le nombre de seniors, qu'il y a à peu près 15 millions de Français qui sont vulnérables. Et a-t-on tiré les leçons, si vous voulez, de la première phase, justement, de ce Covid? Non, aucun. La question, c'est comment, une fois de plus, 9 mois après, on en est toujours à pas de personnel ou manque de personnel et manque de matériel.
Oui, et puis je vous rappelle la déclaration d'Emmanuel Macron, pardon de leur citer, à chaque fois on l'a fait entendre à nos auditeurs, 14 juillet dernier, lors de son interview présidentielle.
Nous serons prêts. Nous serons prêts, et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais le confinement a été un révélateur d'inégalité. Je ne veux pas de cela à nouveau pour le pays. Et donc nous sommes en train de tout faire pour éviter une nouvelle vague, et pour avoir une approche différenciée si elle apparaissait. Les masques, les tests, et ensuite, si une nouvelle vague arrivait, d'isoler le plus localement possible et donc le plus vite possible. C'est pour ça qu'il faut tester.
Voilà, c'était pas il y a 2 ans, hein. C'était il y a 4 mois. Louis de Ragnel.
Alors ce sont des phrases qui aujourd'hui sont insupportables pour aussi beaucoup de Français qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Et c'est là où je rejoins un peu ce que dit Charles Villeneuve et c'est
un
ce qu'on entend aussi,
un petit peu
au moins, c'est que vous souvenez-vous aussi l'épisode des masques, le gouvernement avait dit mais ça ne sert à rien et puis on s'est rendu compte en fait, et regardez on en porte tous, que c'est indispensable et qu'aujourd'hui c'est devenu obligatoire sur la question des réanimateurs. On expliquait qu'il fallait effectivement équiper les hôpitaux et que c'était indispensable. Et même à l'occasion des conseils de défense, moi j'ai eu des échos de ces conseils de défense. Et il y avait quand même ce déterminant qui était le nombre de lits de réanimation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on se rend compte effectivement que ce chiffre n'a pas augmenté. Et si aujourd'hui, en fait, le gouvernement, manifestement, Emmanuel Macron va être obligé de confiner, c'est parce qu'en fait, la prévision qui a été donnée au président, c'est qu'à partir de la mi-novembre, les hôpitaux seront complètement saturés par rapport aux capacités de réanimation. En fait, vraiment, ce qu'il y a de plus important, c'est ça. Et on se rend compte effectivement, et vous l'avez très justement rappelé, que Olivier Véran s'était engagé à quasiment doubler les capacités de réanimation. Et aujourd'hui, on n'en est pas là.
Oui, et puis il y a aussi un côté un peu naïf, pardon, ou en tout cas trop optimiste dans la prise de parole du président de la République. On se souvient qu'il avait, pardon de l'expression, mais bâché son ministre de la Santé, Olivier Véran, en lui disant non, il ne faut pas durcir les mesures, pas pour l'instant, il faut laisser repartir l'économie.
Moi je suis bizarrement partiellement d'accord avec vous et partiellement en désaccord. Alors,
complètement d'accord avec Charles lorsqu'il dit que depuis des années, on a dit la santé coûte trop cher. Depuis des années, nous entendons tous les médecins, tous les patrons des hôpitaux dire qu'ils sont contre l'administration, que l'administration ne comprend rien à leurs besoins, qu'il y a de plus en plus de vieux, qu'il y a de plus en plus de gens. Bon, donc, effectivement, mais c'est une politique qui dure depuis longtemps. En revanche, moi, je veux bien que Macron ait dit des choses il y a 6 mois, mais lequel de nous aurait dit quelque chose de mieux ?
Mais la parole publique est importante, Michel Cotard.
La parole publique, c'est pas lui qui a créé le virus. Hein, il n'en sait rien du virus. Les médecins n'y comprennent, n'en savent toujours rien. Donc, effectivement, on peut se taire quand on est président, mais il faut. C'est difficile. On attend la parole.
J'entends ce que vous dites, mais il y avait une audition qui était très intéressante cet après-midi. C'était celle du professeur Salomon, qui est le directeur général de la santé. Et il explique très clairement que la deuxième vague est la suite logique de la première. Il a quand même tenu ses mots. Attendez, et souvenez-vous, en fait, au moment du 14 juillet dernier, on parlait déjà de la deuxième vague.
Si vous parlez de Salomon, si quelqu'un s'est trompé entre nous, hein, moi j'ai rien, je ne le connais pas, mais si quelqu'un s'est trompé, c'est quand même lui, parce que toute l'histoire du masque qui ne sert à rien, c'est quand même lui qui nous l'a servi.
Alors, on continue d'en parler juste après la pause. Michel Cotta, 18h39. A tout de suite avec Les Grandes Voix, édition spéciale ce soir jusqu'à 21h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, la suite de notre édition spéciale avec le débat des Grandes Voix. Et ce soir, à mes côtés, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1 et l'entrepreneur écrivain Philippe Manière. Alors, je voudrais avec vous évoquer aussi la dimension politique. Car là aussi, dites-moi si je me trompe, mais il y a d'une certaine manière une part d'échec. Le gouvernement avait promis des concertations avec les autres partis, avec les territoires. Caramba, c'est raté. Même l'allié qui murmure à l'oreille du président, j'ai nommé François Bayrou, y est opposé à ce confinement. C'est ce qu'il a dit ce matin. Idem avec Christian Estrosi, allié à droite du président de la République, le maire de Nice, qui a dit ce matin également à la radio, ça n'est pas souhaitable. C'est un problème, ça, Philippe Manière, parce qu'il faut cette union républicaine pour que les Français adhèrent aussi aux mesures sanitaires.
C'est l'union sacrée, c'est un fantasme français qui a très peu d'incarnation historique. C'est-à-dire que ça n'existe pas.
Mais ça avait fonctionné pendant le premier confinement.
Ça avait fonctionné parce que, comme disait Charles Villeneuve tout à l'heure, il y a eu un effet de sidération. Personne n'osait rien dire parce qu'on était tous comme une poule qui trouvait un couteau. Donc là, maintenant, c'est un peu différent. C'est-à-dire que on est beaucoup plus proche de la présidentielle. Très peu de politiques sont des hommes d'État. Et donc, il est assez normal qu'il n'y ait pas un alignement automatique. J'ajoute qu'on voit ça dans tous les pays du monde. On ne voit pas ça qu'en France. L'union sacrée, encore une fois, ça n'est pas facile à obtenir. Je voudrais juste revenir un instant sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les responsabilités éventuelles. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a des effets de pénurie à l'hôpital. Mais ça n'est pas faute de moyens. Mais je voudrais quand même rappeler que dans ce pays, on dépense plus pour la santé que dans aucun autre, ou presque. Je voudrais rappeler que l'augmentation des dépenses de santé a été plus rapide que l'augmentation de la part des seniors dans la population. Simplement, le problème, c'est qu'on dépense mal. On dépense beaucoup trop en administration et pas assez au lit du malade. Moi, j'ai des médecins dans ma famille qui me disent on a vu augmenter les budgets, on a vu augmenter le personnel, mais on a vu diminuer parallèlement le nombre de soignants au lit du malade. C'est ça la pathologie française. C'est pas un problème de crédit, c'est un problème d'organisation. C'est d'ailleurs le problème de la France dans tous les autres domaines. Aujourd'hui, pour porter plainte, c'est la croix et la bannière, alors qu'on n'a jamais dépensé plus en pourcentage de la richesse nationale.
Alors, donc, il y a un petit sujet. Oui, Philippe Manière, je n'ai entendu personne en 2016, finalement, critiquer la décision du ministre de la Défense, à l'époque Jean-Yves Le Drian, supprimer 50% des hôpitaux militaires, et notamment le pôle d'excellence, c'est-à-dire le Val-de-Grâce, où, dans tous ces hôpitaux militaires, vous aviez un poste d'infectiologue, si vous voulez, formé au traitement des virus coloniaux.
C'est vrai.
Personne, pas un mot.
Oui. Alors, ce qui guette aussi, c'est une crise de confiance, peut-être. C'est ce que disait très bien ce matin le professeur Juvin, élu LR aussi, il faut le rappeler. Si en plus d'une crise économique et sanitaire s'installe une crise de confiance, on peut voir éclore des mouvements de désobéissance civile. Est-ce que c'est un risque, ça, Michel Cotard ?
Moi, je voulais d'abord vous répondre sur l'Union nationale et ensuite sur ce risque-là.
Bien, c'est la même thématique.
Oui, c'est la même thématique. C'est vrai que faute d'Union nationale, mais qui s'explique effectivement par des enjeux électoraux, des enjeux de petite boutique en quelque sorte, et puis parce que ça fait peur aux gens, parce que les gens se sentent concernés, parce qu'ils ont des électeurs qui ont peur. Bon, on peut très bien comprendre. Donc, l'Union nationale, il n'y en a pas, il y en a partout, il n'y en a pas partout. En revanche, je considère qu'il ne faut pas que ce désaveu global des politiques entre eux n'ajoute à l'angoisse terrible des Français. Je trouve qu'il devrait se débrouiller pour le dire.
Mais c'est un état de fait, ça, Michel Cotta. On peut le regretter, mais c'est un état de fait. À partir du moment où les politiques critiquent les décisions prises par l'exécutif,
oui,
ça cristallise les
fractures. Évidemment,
ça
peut être contesté, on est d'accord. C'est contesté en Italie, ça peut être contesté.
D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous avez raison de le rappeler. Les élèves français sont plutôt les bons élèves européens.
Exactement.
Il n'y a pas de manifestation.
Et voilà, et j'allais dire de
en Allemagne, on est en Allemagne, le meilleur élève. Il y a des manifestations
anti-masque.
Contre le port du masque.
Anti-masque. Oui. En Italie, donc, des manifestations anti-couvre-feu,
donc c'est
sacrément
violentes.
C'est comme
ça que je voulais terminer. Les gens doutent peut-être de la parole politique, mais en tout cas, pour le moment, ils la respectent en France.
Alors, précision, Louis Dragnel, je voudrais savoir comment le président de la République a pris sa décision. On nous a dit depuis plusieurs jours qu'il y avait 3 scénarios sur la table. Pourquoi a-t-il choisi, si cela se confirme, le scénario le plus dur?
Alors tout d'abord, déjà, il a pris sa décision dimanche soir, parce que Emmanuel Macron, il fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il décide et puis ensuite il consulte pour savoir si, écouter un peu les avis des uns et des autres pour savoir si son avis va
Mais
être entendu.
Dimanche soir, sa décision était déjà prise.
Il a pris effectivement sa décision dimanche soir, ça c'est une certitude. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est il y avait 3 scénarios en fait qui étaient sur la table, 3 hypothèses qui ont circulé hier, avant-hier. Il y avait notamment le durcissement du couvre-feu et je peux vous dire, voilà ce qui s'est dit à l'Élysée, le durcissement du couvre-feu ne permettrait pas un freinage suffisant car la saturation totale des hôpitaux est prévue mi-novembre. Et là, je cite quelqu'un de l'Élysée. Le deuxième scénario, c'était le confinement localisé. Et là, l'évocation de ce scénario, voilà la réaction que j'ai obtenue. Ce serait une incohérence épidémiologique, car tout le territoire est touché de façon plutôt homogène. Et enfin, le troisième scénario, celui que tout le monde redoutait, eh bien, le confinement national strict. Et là, la réponse, c'est il est malheureusement la seule solution pour maîtriser cette vague. Alors, depuis en fait que Emmanuel Macron a pris sa décision, donc il y a la consultation des partis politiques, mais Emmanuel Macron n'a pas attendu la consultation pour ensuite demander à l'administration de se bouger, de se mettre en marche. Oui. Et du coup, il y a des réunions interminables qui ont lieu, notamment dans la cellule interministérielle de crise.
Sur les fameuses exceptions.
Exactement.
Pour les professions.
Et du coup, en fait, même encore en ce moment, à l'heure à laquelle on se parle, il y a une réunion au ministère de l'Intérieur, notamment avec les cultes, et puis il y a tous les secteurs de métiers qui demandent en fait des dérogations, des exceptions. Du coup, c'est extrêmement compliqué. Et figurez-vous en plus, et je termine par là, c'est qu'en fait on demande plus de 400-500 arbitrages qui sont soumis en fait au directeur de cabinet du Premier ministre et à chaque fois personne ne veut prendre de décision d'après ce que j'ai compris.
Bien.
Et tout le monde demande l'avis du président de la République, donc il a une liste énorme et il doit faire des choix qui sont très difficiles.
Il reste beaucoup de temps là, 1h10 pour décider et pour nous annoncer tout cela lors de cette allocution qu'on suivra ensemble encore une fois en direct sur Europe 1, édition spéciale jusqu'à 21h. On parle de l'économie dans un instant, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h50, on poursuit cette édition spéciale avec le débat des grandes voix. Ce soir à mes côtés, Michel Cotta, Charles Villeneuve qui m'écoute. Bonsoir Charles, rebonsoir. Louis Dragnel, chef adjoint du service
bonsoir.
Politique. Et l'entrepreneur essayiste Philippe Manière qui est toujours à mes côtés. Tiens d'ailleurs, l'économie, je voudrais qu'on en parle et commencer par vous Philippe Manière. Est-ce que l'économie peut éviter un effondrement, comme le dit le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux? Bercy nous dit, un mois de shutdown de l'économie, c'est au bas mot 20 milliards d'euros en plus. Est-ce que tout cela est soutenable?
Alors, contrairement à ce qu'on raconte depuis quelques jours, ça n'est pas un décrochage qui nous ferait tomber dans un précipice. C'est-à-dire que si toutefois on a un confinement complet, ce qui semble probable, on va avoir évidemment des commerces à l'arrêt, on va avoir des activités à l'arrêt, ça va peser beaucoup sur la production, mais ça va être progressif, ça ne va pas être un décrochage. Ce qui risque de se traduire par un décrochage, c'est l'accumulation d'ennuis dans un certain nombre de secteurs. C'est-à-dire qu'il y a probablement, typiquement dans la restauration, dans l'hôtellerie, des gens qui vont fermer.
Et puis les petits,
qui
commerces,
vont pas tenir.
Les petits commerces.
Mais très probablement, ils auraient fermé quelques semaines ou quelques mois plus tard. On s'en passerait de tout ça du point de vue économique, évidemment. Mais il n'y a pas de risque de tomber dans un précipice. Il y a un risque de dégradation qui va se poursuivre, malheureusement.
Le déficit public va se creuser de 75 milliards d'euros cette
c'est
année.
Affreux.
L'assurance chômage, même chose, 60 milliards
de dettes.
Si
vous me demandez si c'est horrible, Julien, la réponse est oui. Simplement, c'est quoi les options? C'est ça ou bien alors, effectivement, on assume le fait qu'il y aura quelques dizaines de milliers de personnes qui mourront faute de soins. Et certains ne mourront pas. Je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Charles Villeneuve. Il y a bien sûr la problématique de la réanimation. On aurait peut-être pu, encore que ce ne soit pas facile de former des médecins en 6 mois, mais on aurait peut-être pu avoir plus de lits disponibles. Mais il n'y a pas que les gens qui sont à l'extrémité. Il y a tout un tas de gens qui vont avoir des séquelles toute leur vie. Il y a des gens qui sont malades 6 mois, 1 an. Est-ce qu'on assume ça? Moi, je ne dis pas que... franchement, ça me fait bizarre d'être celui qui défend la solution qui consiste à assommer l'économie. Mais je voudrais que les gens soient bien conscients du fait que si on ne confine pas et qu'on a effectivement la poursuite de la courbe qu'on a aujourd'hui, alors on sauvera l'économie, mais il faut savoir
mais
qu'on aura
sûr,
le spectacle
Philippe
de dizaines de milliers de gens qui vont mourir.
Dans le déni de dire qu'il n'y a pas de crise et d'urgence sanitaire, Michel Cotta, une petite seconde. Mais Voilà, par exemple, ce matin, le Cercle des économistes, dans les colonnes des Échos, disent qu'il y a 6 réformes rapides à mettre en œuvre. Oui. Un revenu minimal ciblé sur les plus fragiles et notamment les jeunes. La retraite à 65 ans, tout de suite, là, demain.
Tout ça est vrai, mais n'a rien à voir avec le sujet.
Du système de formation professionnelle. Je veux dire, il y a des mesures économiques qu'on peut prendre.
Non, mais attendez, du point de vue, il y a sûrement des mesures économiques qu'on peut prendre, mais du point de vue quand même de l'assurance donnée par les 80% de chômage aux gens, on fait rarement aussi bien, et les autres pays d'Europe n'ont pas fait la même chose. Alors moi, je veux bien qu'il y ait... Il y a sûrement des tas de choses à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment, aujourd'hui, de faire la retraite à 65 ans. Ça, je suis sûr. En tout cas, je peux dire que non. Et enfin, je pense qu'aucun gouvernement, dans aucun pays... Il suffit de voir, peut-être que Trump va gagner, donc je m'engage peut-être. Et il suffit de voir la polémique autour des 220 000 morts américains qui sont, par rapport à la population, pas extraordinaire. Aucun gouvernement. La vie, maintenant, a tellement d'importance. L'individualité a tellement d'importance dans les gens que quiconque assume des morts...
Michel Cotta, l'économie, c'est aussi la vie des gens.
L'économie, c'est le social.
Oui, justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les deux. Mais en tout cas, si on laisse vraiment mourir, c'est un peu plus difficile.
Je suis entièrement d'accord avec Philippe Manière sur son analyse par rapport à l'économie. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à partir de là, et c'est vrai, tu as raison, on ne va pas laisser mourir les gens, de toute façon on ne va pas continuer à laisser galoper comme ça le virus. Mais ce qui est dommageable pour l'économie française, c'est que ça touche des secteurs d'excellence de l'économie française, notamment l'aéronautique. La France a une position forte sur ce plan-là. Le tourisme, la France a une position très forte sur ce plan-là, si vous voulez. L'automobile aussi. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons de grands constructeurs. Je pense que l'automobile, on va laisser de toute façon produire des voitures.
Mais ça aura un impact sur l'outil productif. Hein. C'est exactement ce que vous dites.
Absolument. Mais si vous voulez, n'oublions pas que l'économie marche beaucoup sur la consommation des ménages en France. Or, ça va altérer cette consommation indéniablement. Si vous voulez, ce sont ces deux secteurs qui sont complémentaires l'un de l'autre qui vont souffrir.
Louis
Mais a-t-on le choix ?
Louis Dragnel.
Moi, la question que je me pose, c'est, souvenez-vous, au moment de la première vague, Emmanuel Macron avait dit « quoi qu'il en coûte », c'est un mot qui avait marqué beaucoup les gens. Et la question que je me pose, c'est est-ce que voilà, ce soir, Emmanuel Macron va poursuivre ce « quoi qu'il en coûte » ? Je pense que oui, mais je pense que ça va être aussi assez compliqué, puisqu'il y a beaucoup de pays de l'Union européenne aussi qui empruntent ou récupèrent, essayent de récupérer de l'argent ailleurs.
Quoi qu'il en coûte, c'est le contribuable qui payera à la fin.
Ça sera dans 10 ans, Julien.
Absolument.
Ça se passe dans le monde entier.
Et juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Manière, je suis d'accord avec vous pour la question des salariés, mais j'ai regardé un peu les chiffres du prêt garanti par l'État. En fait, il a bénéficié à 600 000 entreprises, pardon, et parmi lesquelles 89% de TPE. Et en fait, pour ces entreprises-là, pour le coup, ils vont bénéficier de quasiment rien. C'est-à-dire que le prêt garanti par l'État, il faut le rembourser un jour. Et pour la plupart de ces gens-là, en fait, ils n'ont plus de protection parce que ce sont des professions libérales. Et du coup, en fait, eux, pour le coup, la crise va entraîner leur chute.
Et donc,
il faut s'arrêter.
Et donc, il y a une rupture. En fait.
Ils vont avoir un gros problème. Certains d'entre eux vont perdre tout ce dans quoi ils avaient investi. Le fruit d'une vie, c'est affreux. Ils ne l'ont pas mérité. Mais quand une météorite tombe sur la Terre, il y a des gens en dessous, ils ne l'ont pas mérité. Que voulez-vous qu'on dise ? C'est une calamité naturelle qui s'abat sur le pays. Alors la solidarité, on doit évidemment la déployer au maximum, mais il est inconcevable qu'il n'y ait pas de dommages.
Bien.
Oui, mais il faut quand même entendre
ça. Merci à tous les quatre. 18h56, dans un instant, la suite de notre édition spéciale avec le journal et puis cette allocution à 20h qu'on suivra ensemble d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Europe 1.